C'est les Apatrides Anonymes, édition du 23 septembre 2021, à 18h30, tous les deux jeudis, en direct ou en rattrapage sur choc.ca. Simon à l'animation pour cette fois-ci. Salut Marie-Ève qui est
Allô,
avec moi.
Allô Simon.
Ça va bien?
Ça va très bien,
super.
Merci.
Salut Mathieu à la console pour l'instant.
Bonjour à vous deux et oulala.
Bonsoir à tout le monde
et
qui
bon
nous
retour,
écoute.
Bon retour Simon.
Ben oui,
j'ai pris un petit congé, je suis allé dans le bas du fleuve, mais je vous en parlerai pas parce qu'on a vraiment plein de sujets d'actualité. Les Apatrides, c'est votre rendez-vous bimensuel sur les phénomènes migratoires, le délire sécuritaire, les frontières, le racisme ici et à ailleurs. Je dis ici parce que, ben oui, il y en a ici. Émission, par contre, plus internationale cette semaine. Marie-Ève, tu nous amènes en France et au Royaume-Uni.
Oui.
Pas juste en France, c'est bien quand même.
Ouais.
Tu traverses...
Je me rends jusqu'à la Manche.
Ouais, toi, tu réussis à la traverser. Mathieu, en Europe aussi, pour un procès en Suède et vers Pologne, Europe de l'Est, dans ce coin-là.
Ben, la situation actuelle en Pologne et particulièrement la situation avec la Biélorussie.
Oui, qui s'est complexifiée depuis quelques mois. Donc, moi, quelques brèves, j'entrecoupe tout ça de quelques brèves un peu plus locales pour équilibrer et un agenda militant vers la fin de l'émission. Donc, on va partir ça, cette émission-là. C'est les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On vous retrouve au-delà du petit pont musical. Avant de passer à Marie-Ève pour des actualités françaises, la campagne électorale fédérale est finie. J'imagine que tout le monde est très déçu. Ou si vous vous en êtes rendu compte, même qu'il y en a eu une.
Moi, j'ai fait du déni.
Ah, moi, j'ai quand même regardé la soirée en bâillant quelques fois.
Oui.
Mais enfin, c'était la campagne électorale avant les élections, évidemment, et il y avait le Conseil national des musulmans canadiens qui nous faisait remarquer que l'islamophobie était à peu près absente des plateformes des discours. Le Conseil des musulmans avait fait une soixantaine de recommandations au gouvernement, dont nommer un commissaire à l'islamophobie, être plus proactif dans la contestation de la loi québécoise sur la laïcité, donc ce qui est un peu une patate chaude pour Trudeau, et qui veut probablement laisser les groupes civils s'en charger pour pas donner l'impression de faire de l'ingérence, pendant que Blanchet répétait constamment que le gouvernement fédéral doit tout faire pour empêcher que de l'argent fédéral finance en partie les contestations judiciaires de la loi 21. Alors, que les programmes qui permettraient ce financement-là de la contestation, c'est des programmes qui sont pas politiques, ils sont indépendants. Donc, bref, Blanchet voulait politiser ces processus-là, ce qui serait en soi une forme d'ingérence assez grave, en tout cas une autre forme d'ingérence. Mais sinon, à part cette question sur la loi 21 qui est québécoise, qui est provinciale, il y a eu à peu près rien sur l'islamophobie durant la campagne, donc belle occasion manquée. Surtout qu'il y a eu un sommet national sur l'islamophobie cet été, c'est tout récent. À la suite de ce sommet-là, sont sortis plein d'engagements, plein de promesses, et puis là, ça a été plus ou moins balayé sous le tapis. Un peu comme vous, Marie-Ève, Mathieu, vous aviez parlé des différentes plateformes, entre autres des partis, sur les enjeux autochtones, sur l'immigration. Vous étiez un petit peu, je crois, légèrement resté sur votre fin.
Sur notre fin, oui, si ouais. On peut le dire comme ça.
Sur l'islamophobie, on n'en a vraiment pas parlé, mais il y avait quand même quelques éléments dans les plateformes, entre autres le Parti libéral qui voulait créer un fonds pour aider les survivants de crimes haineux, qui couvrirait par exemple les soins de santé mentale et autres services spécialisés. Les trois libéraux, néo-démocrates, conservateurs promettaient tous de lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, O'Toole a eu des députés qui ont été rappelés à l'ordre pour avoir diffusé des théories du complot islamophobe sur les réseaux sociaux. Je crois que le Bloc avait fait le ménage de ses députés trop haineux lors de la campagne de 2019, on s'en rappelle. Donc, ça c'était plutôt calme de ce côté-là, je crois, en 2021.
Là, il aurait pu parler du chef lui-même. Finalement, mais...
De lui-même.
De lui-même.
Oui, mais c'était seulement à lui qui parlait, non, alors...
Il parlait pas taire toutes les autres.
Il parlait pas de ses penchants islamophobes, non.
Non, il faisait taire les femmes arabes, entre autres. Les conservateurs, eux, voulaient doubler le financement des programmes de sécurité des lieux de culte et communautaires et rendre plus facile l'accès à ces programmes-là. Donc, accès qui sont actuellement conditionnels au fait d'avoir déjà été victime d'un acte violent et haineux, donc dûment reconnu, condamné. Le NPD veut un plan d'action pour démanteler les groupes suprémacistes et néo-nazis. J'aurais aimé ça de l'entendre, ça, par contre.
Dans le débat en anglais?
Ouais, ben oui. Ben non, en français, en anglais. C'était le 11 septembre, il y a 12 jours. Donc, il y a des journalistes qui ont demandé, je sais pas dans quel contexte, si le 11 septembre 2001 avait changé nos habitudes par rapport aux musulmans, notre perception, notre comportement. Il y a Trudeau qui a dit, ben oui, un avant, un après, comme évidemment. Et Blanchet, toujours un peu dans une posture négationniste, quand on parle de racisme, il a dit non, le 11 septembre n'avait absolument rien changé. Il a même dit qu'il y avait des amis musulmans. Donc, je résume, mais en gros, c'est ce qu'il a dit, là. D'ailleurs, je vous invite, et j'invite surtout M. Blanchet, à lire un article de Radio-Canada qui s'intitule « Être à la fois américain et musulman après le 11 septembre 2001 ». C'est des témoignages de personnes musulmanes, surtout new-yorkaises, qui racontent l'intensification de l'ostracisation qu'ils ont vécu depuis le 11 septembre et qu'ils vivent encore 20 ans plus tard. Autant du racisme systémique institutionnel, on peut penser au Muslim ban de Trump, que du racisme ordinaire, là, des insultes, des soupçons. Article fort intéressant, être à la fois américain et musulmans après le 11 septembre.
Ben non seulement ça, mais ici aussi, il y a eu les certificats de sécurité quand même, tu sais, qui ont fait pas mal de victimes. Puis dans les post-11 septembre, justement, c'était que des musulmans, que des hommes musulmans qui ont été victimes des certificats de sécurité.
Oui. Oui, sans parler des attentats anti-musulmans des dernières années, qui sont toute la suite un peu du 11 septembre.
Je sais pas, il était où Blanchet, mais bon.
Ben, c'est bien qu'il se construit un discours, là, mais tu sais, on peut penser aux lois, justement, sur la construction médiatique des accommodements raisonnables et toutes ces affaires-là. Fait que bref, on va aller dans un pays où ça va aussi bien, en France,
sur les questions islamophobes,
là, on peut dire que... Enfin, fait que Marie-Ève, je te cède le micro.
Ben oui, je vais commencer quand même avec une bonne nouvelle, là, la bonne nouvelle de la semaine. Thaïs Descuffon, ancienne porte-parole de Génération Identitaire, a été condamnée le 9 septembre dernier à 2 mois de prison avec sursis pour injure publique.
Ah bon?
Une autre personne de ce mouvement là de Génération Identitaire, Jérémy Piano, a écopé lui de la même peine pour cette fois-là provocation à la haine raciale. Les deux militants du groupuscule d'extrême droite qui a été dissous, doit-on le rappeler.
Le groupuscule enfin, il y avait du budget,
gros,
quand même.
Gros groupuscule d'extrême droite, okay, c'est bon. Dissous, ont également été condamnés à 3 000 € d'amende. Pour rappel, c'est que Thaïs Descuffon et Jérémy Piano avaient publié des vidéos hostiles, c'est le moins qu'on puisse dire, aux exilés à la suite d'une opération anti-migrant de Génération Identitaire qui avait eu lieu le 19 janvier dans les Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne. Lors de cette action-là, il y avait une trentaine de militants là à bord de véhicules estampés de Defend Europe, avaient déployé une banderole No Way. Une équipe était ensuite partie avec un drone pour soi-disant surveiller la frontière. Bref, sans surprise, Thaïs Descuffon a dénoncé la décision de justice comme une atteinte très grave à la liberté d'expression.
Ah ben oui.
Visant à servir d'exemple pour criminaliser le discours anti-immigration. Ben oui, c'est exactement ça.
Ben je pense que oui, ça rentre dans le grand giron des criminels.
Ouais. Sinon, autre dossier plus costaud, dossier des anges gardiens, vous vous rappelez ici, hein, il est loin d'avoir fait honneur au gouvernement Trudeau. D'ailleurs, on n'en parle déjà plus dans les médias ou à peu près. J'ai eu beau chercher, j'ai trouvé aucun chiffre à jour. La France, elle, en revanche, semble avoir été un petit peu plus vite sur le piton. Un an après son lancement, le dispositif spécial qui a été mis en place pour les travailleurs, travailleuses étrangers en première ligne durant la crise sanitaire a abouti finalement à la naturalisation de un peu plus de 12 000 personnes sur 16 500 à peu près dossiers déposés.
C'est juste un début ou c'est...
Non, ça risque... Ben là, je sais pas si... Ce que je sais pas, c'est si la balance, si c'est des dossiers qui ont été refusés ou si c'est des dossiers qui sont encore en attente de traitement. Et donc, contrairement au programme canadien, les catégories de métiers admissibles ratissent pas mal plus large. Par exemple, il y a les aides à domicile, caissiers, caissières, éboueurs, agents d'entretien, professionnels de la santé, mais aussi les employés qui offrent dans le secteur funéraire. Donc, c'est ça, parce que la procédure s'appliquait jusqu'au 15 juillet dernier et donc s'adressait aux demandeurs exerçant une profession particulièrement exposée ou indispensable à, je cite, la continuité de la nation pendant la période de crise sanitaire. Il fallait également prouver un engagement professionnel actif, évidemment, pendant la période d'état d'urgence due à la COVID. La durée minimale exigée de résidence en France a été réduite à 2 ans au lieu de 5 habituellement. Et à ça s'ajoutent des conditions là, demandées habituelles pour une naturalisation, par entre autres, une connaissance suffisante de la langue française, de la culture et de l'adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République.
On se croirait au Québec,
c'est exactement c'est ce que je me disais quand j'ai lu ça. Mais bon, si cette mesure-là a pu quand même être utile à ces 12 000 quelques bénéficiaires pour les associations de défense des droits des personnes migrantes, sa portée reste très limitée et mitigée. Il y a Antoine Matt du groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI, qui voit avant tout un effet d'annonce qui est destiné à masquer en fait le durcissement des politiques qui s'exercent sur cette question-là. Il explique que la demande de naturalisation est une procédure difficile dont le niveau est bien plus élevé qu'auparavant, puis que si elle s'était appliquée par exemple, il y a 20 ans, c'est toute une génération de personnes migrantes qui n'auraient jamais pu obtenir la citoyenneté française. Mmh. Pour preuve, selon lui, la baisse drastique de naturalisation qui a été qu'on a vue là, l'année dernière, en 2020, il y a effectivement un peu plus de 61 000 personnes qui ont été acquis la nationalité française, soit 20% de mieux que
de moins que
l'année précédente. Pour la CIMAD, elle, le dispositif et ses résultats-là cachent le silence des pouvoirs publics sur d'autres enjeux importants d'accès aux soins, d'accès aux droits des personnes étrangères installées en France, qu'elles travaillent ou non dans des secteurs désormais dits essentiels. La CIMAD fait ici référence, entre autres, à l'accès aux démarches administratives qui a été rendu très difficile depuis le début de la pandémie en raison de la dématérialisation des procédures dont je vous avais déjà parlé.
Ouais.
On dénonce aussi le système à deux vitesses, évidemment, que ça crée, avec d'un côté ceux et celles qui, bon, une fois naturalisés, sont un peu estampillés là, de méritants et donc considérés comme responsables. Puis de l'autre côté, ben tous les autres.
C'est les mauvais puis les bons. Hein,
c'est finalement. Ça. Parce que dans les faits, la directive concerne uniquement les étrangères en situation régulière. Donc, ça exclut les quelques 350 000 sans-papiers qui vivent en France.
Qui travaillaient dans les mêmes secteurs souvent en plus.
C'est ça.
Et ouais, qui étaient peut-être même en situation régulière avant de devenir en situation régulière aussi.
C'est ça. Je terminerai, si j'ai le temps, avec une petite nouvelle dont je voulais vous parler à la dernière émission, mais on avait tellement de j'ai pas eu l'opportunité.
Vas-y, Marie, on t'écoute.
Donc, mais c'est parce que je vous en parle aussi parce qu'il y a eu des développements depuis.
Okay.
Mais donc le 1er septembre, il y a 600 personnes migrantes qui ont installé leur tente dans le parc André Citroën, qui est situé dans le sud de Paris, dans le 15e arrondissement, dans le but de réclamer un hébergement digne pour les migrants, migrantes qui vivent dans la rue. Assez rapidement, le nombre de campeurs a vraiment explosé. Puis là, ben, le 4 septembre, les autorités sont intervenues pour conduire les un peu plus de 1200 personnes qui étaient sur place vers des centres d'accueil et d'examen des situations administratives. Le hic, c'est que quelques jours plus tard, des associations de défense des droits des personnes migrantes ont dénoncé ces soi-disant mises à l'abri-là, qui est le terme qui est utilisé en France par les autorités.
Suite à une conduite.
Comme étant un piège parce que, selon les associations, il y a au moins 11 personnes qui auraient en fait été placées en centre de rétention administrative, chiffre qui pourrait d'ailleurs être plus élevé, on ne le sait pas encore. Il y a certaines personnes qui auraient aussi été séparées de leurs conjoints et de leurs enfants, alors que d'autres auraient été interpellées et auraient reçu une obligation de quitter le territoire français. On rapporte même que des certaines personnes migrantes ont été arrêtées directement à la sortie du bus par la police qui contrôlait la situation de l'ensemble des passagers. Puis, les associations dénoncent aussi le déplacement forcé, c'est l'expression que les assos utilisent, vers les provinces, dans le fond, de 670 personnes, okay, qui ont été transférées vers Besançon, Rennes ou encore Strasbourg.
Et, bon, les sortaient de la région parisienne, là, carrément.
Yes.
Ben, assez loin, là, d'ailleurs.
C'est ça. Et donc, puis, le pire, c'est que, selon les associations, ni elles, ni les personnes déplacées ont été informées qu'elles seraient contrôlées par la police et transportées loin de leur lieu de vie au moment de l'intervention.
Ben.
Et puis, la majorité des personnes qui ont été déplacées en région, bon, ont depuis quitté les centres d'hébergement où est-ce qu'elles avaient été placées. Mais parmi elles, beaucoup travaillent dans la région de l'Île-de-France. Donc, et ils scolarisaient aussi leurs enfants. Et donc, ces personnes-là ont été forcées de revenir par leurs propres moyens pour éviter de perdre leur emploi ou d'entraver la scolarisation de leurs enfants. Fait que c'est à suivre parce que probablement que...
C'est une belle opération. C'est magnifique.
Ben, probablement, la réalité est assez loin des communications officielles du ministère de l'Intérieur. Là,
oui, oui, puis le ministère...
Il y avait la mairie là-dedans, il y avait plein de monde. Là.
C'est ça. Puis, tu sais, évidemment, les autorités disent « Non, 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 les personnes avaient été informées alors que les témoignages que les assos reçoivent de la part de personnes qui ont été transportées, mis dans les bus et tout concordent pas du tout avec la version justement officielle des autorités, évidemment. Mais probablement qu'il va y avoir plus de chiffres, tu sais, ou en tout cas d'informations qui vont sortir aussi dans les semaines qui viennent.
Les démantèlements de camps, c'est jamais très, très...
C'est un gros camp quand même, c'est 1200 personnes, pardon, fait que... C'est ça.
Il va y avoir du chiolage. Le 15e, c'est un peu bourgeois. Hein, quand
c'était en face de la préfecture, en plus, quelqu'un était installé. Fait que,
merci, ouais. Marie-Ève. On te retrouve plus tard dans l'émission pour encore un peu de République française et de Royaume-Uni. Et on va aller en musique pour l'instant avec Paul Cunigis, Lampedusa. On revient un peu plus tard avec Mathieu pour la suite des Apatrides anonymes.
Il faudra passer la frontière. Après, il y aura le désert. Tout au bout, on arrive à la mer. Ils lui ont dit pas trop de bagages, un petit sac, une bouteille d'eau, de bonnes chaussures, un manteau. Le vent du large peut être froid. Surtout ne te retourne pas, tout se fassera derrière toi. Le sable du désert passera tes pas. Ils lui ont dit il faut de l'argent, si t'en as pas, tu travailleras tout le temps qu'il te faudra. Ça peut être long, ça dépendra. Ils lui ont dit le jour viendra où tu monteras sur ce bateau qui te mènera de l'autre côté vers l'avenir. Lampedusa. Lampedusa. retourne pas, tout se passera derrière toi. Les vagues de la mer recouvriront ta voix. Surtout ne te retourne pas, tout se passera derrière toi. Les vagues de la mer recouvriront ta voix. Et lui on dit, tiens la boussole, le monde, le nord, Londres ou Berlin, Montréal, Rome, Stockholm, nous avons rien cette île là-bas. Ils lui ont dit, c'est très facile, au fond t'as qu'à aller tout droit. Et quand tu verras scintiller les lumières, tu n'auras qu'à sauter à la mer. Surtout ne te retourne pas, tout se stampera derrière toi. L'eau de la mer te percera. Surtout ne te retourne pas, tout se stampera derrière toi. Te bercera.
Toujours sur choc.ca, on écoutait la pièce Lampedusa de Paul Kunigis, qui est né en Pologne, élevé en Israël, qui a fréquenté une école française dans la ville arabe de Jaffa, dans le Grand Tel Aviv, si on peut dire, et passé par Toronto, mais vit à Montréal depuis 20 ans. Lampedusa, c'est coécrit par Paul Kunigis et la journaliste Agnès Grouda. C'est sur l'album Yala, paru un peu plus tôt cette année. Avant de passer à Mathieu, un petit bonjour tant qu'à faire, mais
bonjour.
Tu vas nous amener justement en Europe de l'Est, on entendait des sonorités, c'est un beau bonjour.
En Pologne, entre autres.
En Pologne, ouais, des sonorités un peu avoisinantes. Donc, quelques mots sur les rapatriements de personnes afghanes qui fuient le régime des talibans qui s'est installé au pouvoir le 15 août. Donc, tout le monde a vu les images chaotiques à l'aéroport de Kaboul, évidemment. Le fédéral s'est engagé à accueillir 21 000 réfugiés afghans et peut-être deux fois plus, jusqu'à 40 000 si on se fie au programme électoral publié la semaine passée, je pense, par le Parti libéral. Pour l'instant, les chiffres les plus récents qu'on a, ce serait 3 700 personnes qui auraient été évacuées par le gouvernement canadien slash gouvernement américain. Ça s'est fait un peu
conjointement
et dans l'improvisation. La majorité serait des 3 700 serait déjà sur le territoire canadien, mais pas tout le monde. Il y aurait environ 6 500 demandes actuellement approuvées par Immigration Canada. La réponse canadienne à la crise a été quand même critiquée pour sa lenteur, pour le manque de préparation suite au coup d'État taliban que normalement on aurait dû prévoir, et surtout pour la lourdeur bureaucratique du programme spécial qui a été créé. On est vraiment dans une situation d'urgence assez absolue avec souvent des questions de vie ou de mort, et encore plus pour les minorités sexuelles, les femmes, sans parler des journalistes, des militants pour la démocratie. Tantôt, je disais qu'on en est à 3 700 personnes évacuées par le Canada et qu'environ 3 000 sont déjà sur le territoire, au Canada.
Au Canada.
Donc, ça fait quand même pas mal de monde qui sont parqués à différents endroits dans le monde. Il y a, par exemple, une base militaire américaine en Allemagne, à Rammstein.
Ça
s'invente pas. Je sais pas quel genre de musique ils font jouer là-bas. En tout cas, bref, à la base militaire américaine à Rammstein, il y a des centaines d'Afghans qui attendent d'être pris en charge par le pays qui a accepté leur demande. Donc, parmi ces pays-là, le Canada. La base de Rammstein est devenue un point de transfert crucial de cette opération de rescousse aérienne qui serait la plus importante de l'histoire de l'armée américaine et peut-être même canadienne aussi. Bref, il y en a qui se sentent oubliés par le gouvernement canadien. Il y a des familles entières qui marinent dans leur jus, dans les baraques de la base américaine, des fois même dans des hangars d'avions, depuis qu'ils ont été évacués de l'Afghanistan il y a 2-3 semaines. Ils n'ont aucune nouvelle, pas de texto, courriel, appel, rien de la part du gouvernement canadien. Donc, en attendant, c'est des militaires américains avec quelques ONG allemandes qui essaient d'assurer les besoins de base des réfugiés sur ces bases-là. Le ministère canadien de l'immigration n'a pas publié de mode d'opération ou de calendrier en ce qui concerne les évacuations. En plus, ben, le Canada, ça fait longtemps, je pense fin août, il avait déjà mis fin à ses opérations de sauvetage à partir de Kaboul. Il y aurait aussi des centaines de collaborateurs, ceux qu'on appelle les collaborateurs afghans, qui étaient des interprètes, on a parlé surtout d'eux, des guides, des chauffeurs, etc., qui ont été laissés derrière après la fin des opérations canadiennes, malgré les promesses. Donc, eux, il y a peu de chances qu'ils soient évacués. Donc, beaucoup d'improvisation. Là-dessus, on va passer le micro à Mathieu. On revient en Europe, qui nous amène dans une région bien différente, en Pologne, Biélorussie, je crois aussi.
Oui, c'est tout le même coin, là. C'est l'Europe de l'Est, l'Europe centrale.
Les pays baltes.
Les pays de l'ex-bloc soviétique. Juste préciser que le programme des 20 000 Afghans, il a été annoncé au mois de juillet. Donc, un mois avant la fin du régime qui était là.
OK, donc on pouvait, on prévoyait le coup, en fait.
Oui, mais il était pas préparé. Ça a été annoncé au mois de juillet, tu sais, puis ça s'est passé au mois d'août. Fait que c'est sûr que ça a été tout croche, comme tu décrivais si bien, là.
Ouais.
Exactement. Pologne, avant de parler de la question des migrants-migrantes à la frontière polonaise, quelques petites infos sur la Pologne actuellement au niveau politique. Peut-être rappeler que c'est un gouvernement d'extrême droite nationaliste catholique qui est au pouvoir, donc ça va un peu nous teinter un peu le contexte. Donc, récemment, au début du mois de septembre, la Commission européenne a annoncé avoir demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'ordonner des sanctions financières contre la Pologne dans le cadre d'une procédure en cours sur le manque d'indépendance du système judiciaire du pays.
OK.
Le 14 juillet, donc quelques semaines avant, la Commission de justice européenne avait ordonné à Varsovie de faire cesser immédiatement les activités de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême, une institution mise en place dans le cadre d'une réforme du système judiciaire. La Chambre disciplinaire, écoute ça, est chargée de superviser les juges avec le pouvoir de lever leur immunité pour les exposer à des poursuites pénales ou réduire leur salaire.
Ah bon?
Selon la justice européenne, cet organe judiciaire n'est pas à l'abri d'influences directes ou indirectes des pouvoirs législatifs et exécutifs.
Ben non, on imagine qu'il peut y avoir des ordres qui viennent d'un peu plus de l'exécutif, justement.
Ben, des politiciens, donc du parti au pouvoir qui règne un peu sans partage. Sinon, ben toujours dans le même esprit, les membres du parti PIS, ultra-conservateur, qui est au pouvoir depuis 2015, n'en finissent pas de critiquer l'Union européenne parce qu'ils se font rentrer dedans sur certains truc de base, au point de relancer le débat sur le Polexit. Je ne sais pas si tu avais entendu ça.
Ah, ben oui, on a toutes sortes d'acronymes pour à peu près tous les pays, le Frexit, là, des affaires comme ça.
Exactement, donc le Polexit, mesdames et messieurs, mais c'est un peu de la game politique, parce que 70% des Polonais, selon plein de sondages et d'études, sont très heureux d'être en Union, ben ils sont très heureux, ils veulent rester avec l'Union européenne, donc ça ne sera pas quelque chose qui va arriver demain matin.
Leur job en dépend, parfois.
Ils ont des subventions, c'est sûr, c'est clair, mais aussi, ça leur permet aussi d'avoir accès à l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, pour finir sur le contexte, a condamné, le 16 septembre, c'est tout récent, la Pologne pour avoir retiré la garde de ses enfants à une mère qui, après avoir divorcé de son mari, avait entamé une relation avec une autre femme.
Oh là là!
Quand même! Donc, c'est ça la justice en Pologne. La Pologne a donc été condamnée à verser 10 000 euros à la plaignante au titre de préjudice moral. À noter, le juge polonais, qui était à la Cour européenne, a lui émis une opinion dissidente.
Mais il n'a pas été démis de ses fonctions ou réduit de salaire. J'imagine.
Non, il est à la Cour européenne des droits de la personne, lui, c'est ça. Non, pas celui qui a fait le premier condamnation, mais celui qui était le jugement. Sinon, sur la question, la situation se dégrade à l'est de l'Union européenne, sur les frontières polonaises et lettonnes, alors que de nombreux migrants continuent à affluer depuis la Biélorussie voisine. La Cour européenne des droits de l'homme, encore, a demandé à Varsovie et Riga d'intervenir pour aider les migrants massés à leurs frontières. C'est la Pologne, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie qui ont conjointement reproché à la Biélorussie, avec l'aide de la Russie, de permettre à des migrants, principalement afghans et irakiens, de traverser illégalement ces frontières pour pénétrer dans l'UE. On parle de ce que c'est une réponse aux sanctions de l'Union européenne contre le régime de Loukachenko pour tout ce qu'on sait qui s'est passé, mais c'est quand même plus complexe que ça. Le HCR a appelé la Pologne à accueillir au moins des groupes de migrants, ceux qui sont déjà là depuis longtemps à la frontière. La Pologne a refusé à la fin août de fournir de l'aide aux migrants bloqués, et de l'aide, on parle eau, nourriture, vêtements, soins médicaux et, si possible, un abri temporaire. Il y a un cas qui est assez dont on parle beaucoup en Pologne et en Europe, c'est une trentaine de migrants, des Afghans, qui sont coincés depuis des semaines dans un campement de fortune à la frontière près du village de Ousnarz-Gorny.
Des Afghans surtout, tu dis?
Ouais, ça c'est un groupe d'Afghans en particulier qui est un peu symbolique parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis c'est comme il y a des familles. Mais la Pologne refuse de les laisser entrer dans le territoire et ils sont surveillés, ils sont vraiment pris entre les gardes frontières biélorusses
et les militaires polonais, là, sont vraiment entourés dans un marécage boisé. C'est très agréable. Les activistes polonais ne peuvent pas approcher les exilés et communiquent avec eux via des pancartes et des mégaphones, souvent brouillés par les mégaphones de la police. Ils se plaignent de ne pouvoir leur fournir ni vivres ni équipements nécessaires pour tenir par un temps toujours plus froid et plus vieux, plus le temps avance.
Mais c'est comme si on les condamnait à mort. Là.
Regarde, je m'en viens. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup, d'informations dans les dernières semaines. Et la Pologne, ben, Subtil a décrété l'état d'urgence dans ses régions frontalières le 3 septembre avec la Biélorussie. Il donne aux autorités des pouvoirs étendus pour surveiller la zone, interdiction de manifestation dans une bande de 3 km le long de la frontière et accès interdit aux médias. Il s'agit du premier état d'urgence en Pologne depuis la chute du communisme en 1989. En plus, Varsovie a dépêché 2000 soldats et a commencé la construction d'un
mur,
clôture en barbelé, évidemment. En date du 7 septembre, il y aurait 10 000 personnes qui attendent aux frontières de l'Union européenne, donc des 4 pays avec la Biélorussie, selon l'Organisation internationale des migrations. L'OIM affirme d'ailleurs que des rapports font état de refoulement transfrontalier forcé de migrants, y compris des familles et des enfants, de l'absence d'accès adéquat à l'asile pour ceux qui cherchent une protection internationale. Donc, en Pologne, l'état d'urgence et la nouvelle clôture. La Lettonie avait pris la même décision au mois d'août. Je pense que Marie-Ève t'en avait parlé. Et en Lituanie, les autorités ont adopté une loi donnant un feu vert à la construction d'une clôture le long de sa frontière avec la Biélorussie. Et tout récemment, là, cette semaine, je suis dans les nouvelles plus récentes, les corps de 4 personnes, vraisemblablement des migrants, ont été découverts à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Ben, c'est pas surprenant. Hein?
Ben, c'est pas surprenant tout à fait, parce qu'ils sont dans des conditions vraiment misérables, ils sont vraiment bloqués. Juste samedi dernier, il y a eu 324 tentatives de franchissement de la frontière entre la Biélorussie et puis la Pologne. Au lendemain de la mort des 4 migrants, des centaines de personnes ont allumé des bougies et déposées par les habitants de Varsovie devant le siège des gardes frontières à Varsovie pour rendre hommage aux exilés. Et le gouvernement polonais, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 500 soldats supplémentaires et 8 véhicules militaires qui ont été envoyés cette semaine. Donc, c'est ça la situation, là, en date de avant-hier. Ça date d'avant-hier, ces nouvelles-là. Je voulais juste faire le parallèle rapidement en terminant avec la Turquie et la Grèce. On se rappelle que les Européens avaient payé Erdogan pour retenir les migrants syriens. Mais quand ça faisait pas son affaire, l'argent qu'il avait, il ouvrait la frontière, tout le monde se retrouvait en Grèce. Puis là, c'était une façon de faire pression. Donc, dans le cas de la Biélorussie, c'est un petit peu le même manège.
Oui, mais il y a aussi le fait que, en tout cas, de la façon dont je le vois, c'est aussi... bon, on le sait, comme c'est beaucoup t'as parlé du contexte, justement, en Pologne, donc c'est beaucoup des gouvernements...
D'extrême droite
qui sont au pouvoir actuellement dans ces pays-là. Fait que, tu sais, c'est aussi une façon d'exacerber... Je veux pas dire que c'est fait exprès pour ça, mais c'est clair que ça a quand même comme résultat d'exacerber les tensions puis les sentiments anti-migrants parmi la population, tu sais, puis de c'est ça, d'exacerber des sentiments de peur et de ci et de ça. Là,
c'est du beau capital politique, là, montrer les gros clair, bras, faire le dur.
Oui, puis surtout dire que c'est la faute du voisin qui fait exprès d'envoyer. Tu sais, le discours, c'est carrément que la Biélorussie et la Russie font venir des gens d'Irak et d'Afghanistan sans visa, puis les amènent à la frontière en taxi pour les envoyer dans le pays pour les faire chier. Fait que, tu sais, c'est qu'on est vraiment là. Mais j'ai quand même trouvé aussi, quand je travaillais là-dessus cette semaine, le parallèle avec le Mexique et le Texas, avec des migrants massés sous un pont à la frontière qui passent, qui risquent de se noyer, qui sont accueillis à coups de fouet,
oui,
puis sont
cheval,
mis dans des avions, tu sais, sans ménagement. Donc, ça se passe un peu partout dans le monde, ce genre de situation. Donc voilà.
Il y avait même une image, un mème là, qui circule dans les internets. On voyait des images du début peut-être du 19e siècle. C'est le même principe, là, genre la cavalerie américaine qui est en cheval puis qui fouette des noirs. Là, puis c'était un peu, c'est beaucoup des Haïtiens en plus à la frontière la semaine passée. Là. Donc c'était comme vraiment l'histoire se répète. C'est un miroir là, carrément. Écoute, c'est très déprimant tout ça.
Mais faut suivre ce qui se passe.
Faut suivre. C'est beaucoup d'informations. On va faire un petit point musical pour poursuivre l'émission vers... on va retrouver Marie-Ève un peu plus tard. On est toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Donc, pendant que Marie-Ève s'installe au micro principal, je lui vole un peu de son temps pour des enjeux autochtones. Ça va, puis ensuite, on retourne en Europe. C'est promis. Donc, on parle souvent d'environnement quand on parle des Premières Nations parce qu'elles occupent vraiment le territoire où les communautés doivent combattre l'immense appétit des multinationales pour les ressources naturelles. Mais un angle mort qu'on oublie parfois, c'est la menace des changements climatiques, donc qui est plus indirect là, sur les traditions et les modes de vie autochtones, que ce soit la médecine, les cérémonies, qui sont toujours très connectées à l'environnement immédiat, très local. Sauf que quand l'environnement immédiat change, et de plus en plus rapidement, mais ça remet beaucoup de choses en question. Alors, plein de fleurs, de plantes, d'espèces végétales ou animales qui sont utilisées dans les traditions ancestrales s'éteignent les unes après les autres ou migrent vers d'autres territoires, où elles-mêmes, ces espèces-là, s'adaptent au changement et perdent les caractéristiques qui les rendaient utiles. Surtout quand on parle de plantes médicinales qu'on n'arrive plus à trouver ou qui sont carrément éteintes ou trop proches d'industries qui contaminent tout, non seulement ça met la vie des gens qui vivent loin des hôpitaux en danger, mais ça met en question plein de savoirs et de pratiques et ça vient porter un coup quand même assez brutal, un coup COUP, là, tu sais, à l'autonomie des communautés qui ne peuvent plus administrer tel traitement ou traiter une blessure ou une maladie et on doit s'en remettre au système hospitalier d'une province qui n'est pas toujours bien adapté ou sensible aux réalités autochtones. On l'a vu au Québec à quelques reprises. On parle de plantes emblématiques qui sont très importantes dans beaucoup de communautés autochtones, donc le cèdre, la sauge, le tabac et le foin d'odeur, qui démontrent, les quatre démontrent des signes assez alarmants, là, pas tous au même niveau, mais d'appauvrissement. C'est pas juste dans une optique de médecine, mais ces produits-là servent aussi à la confection d'objets rituels, d'objets du quotidien, en cuisine, en menuiserie, etc. Bref, pour la survie de tout le monde, on pourrait essayer de combiner la science occidentale et les savoirs autochtones, une fusion qu'on appelle en Mi'kmaq, Etuaqtmunk, ou vision à deux yeux. Deuxième et dernière brève à saveur autochtone, avant de céder le micro à Marie-Ève, les Inuits, systématiquement privé, selon certains rapports, d'indemnités allouées aux victimes de violences. Il y a une nouvelle demande d'autorisation de recours collectif qui a été déposée et la demande s'appuie sur des statistiques. Par exemple, sur les 7400 bénéficiaires du programme en 2020, c'est un programme provincial, on trouve seulement 9 résidents du Nunavik, ce qui fait dire aux avocats qui travaillent sur la demande que les victimes d'actes criminels du Nunavik ont 40 fois moins de chances d'être indemnisées que les résidents des autres régions du Québec. Là, on ne parle pas juste de Premières Nations, on parle des moyennes générales. Environ 8% des victimes de crimes contre la personne rapportées au Québec en 2013 et 2019 ont été indemnisées versus 0,21% pour les résidents du Nunavik. Donc, on passe de 8% à 0,21%. Paradoxalement, le Nunavik est l'une des régions où on est le plus à risque d'être victime de violences physiques ou sexuelles. Je vais dire policière, mais j'improvise.
Ça
peut l'inclure, mais j'ai pas de données officielles. Donc, l'une des raisons qu'on explique, c'est qu'avant même les refus administratifs, énormément de victimes ne seraient jamais informées, donc sont même pas au courant de l'existence des programmes d'indemnisation. Et c'est la, indemnisation, c'est aussi difficile à dire que c'est CHSLD. En tout cas, bref, beaucoup de gens ne seraient pas au courant de l'existence de ces programmes-là et c'est la responsabilité du gouvernement de faire la promotion et l'éducation par rapport à l'existence de ses propres programmes. Mais peu importe que les explications qu'on peut donner, la demande d'autorisation de recours collectif demande des compensations pour les victimes qui n'ont jamais été indemnisées et aussi exige que le gouvernement du Québec prenne les mesures nécessaires pour que les victimes du Nunavik puissent bénéficier du régime d'indemnisation. Donc, à suivre, on vous dira bientôt si le recours collectif a été autorisé. Marie-Ève, pendant que je reprends mon souffle, je passe le micro. Alors, à toi, on s'en va en France, Royaume-Uni.
Oui, c'est ça. En fait, c'est que depuis le début du mois de septembre, on assiste à un véritable bras de fer entre la France et le Royaume-Uni. Et non, ça n'implique pas des sous-marins, mais bien les traversées irrégulières de la Manche. C'est que depuis le mois d'août, le Royaume-Uni est confronté à des arrivées vraiment massives. Bon, ça l'était déjà depuis le début de l'année, mais au mois d'août, ça a été particulièrement des traversées records. Par exemple, le 21 août, il y a un nouveau record de traversée qui a été établi avec plus de 800 personnes arrivées sur les côtes britanniques en une seule journée là, à bord de 30 embarcations. Selon la BBC, le précédent record d'arrivée remontait au 12 août. Il s'élevait à environ 600 personnes qui étaient qui avaient joint les côtes britanniques. Puis bon, je disais qu'il y a quand même une augmentation depuis le début de l'année. Il y a plus de 14 000 personnes migrantes qui ont débarqué sur les côtes du sud de la Grande-Bretagne depuis janvier. Et c'est ça, c'est le double des arrivées de l'an dernier. Et on est l'année n'est même pas terminée. Donc là, dans ce contexte-là, le gouvernement britannique menace donc de refouler les bateaux en mer si la France intensifie pas ses efforts pour neutraliser les réseaux de passeurs qui opèrent à partir de ses côtes. Selon les journaux britanniques, la police des frontières aurait déjà reçu l'ordre de s'entraîner en vue d'intercepter et de retourner en France les bateaux chargés de migrants-migrantes qui tentent de traverser la Manche. Et d'après le Times, la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a même demandé que soit réécrite l'interprétation par le Royaume-Uni du droit maritime international pour pouvoir justement autoriser la Border Force à refouler ces bateaux-là.
Ben ouais.
La ministre est même allée jusqu'à menacer de ne pas verser les plus de 60 millions d'euros promis par son gouvernement en juillet, dont on a parlé déjà ici à l'émission, pour financer le renforcement de la présence des forces de l'ordre françaises sur les côtes. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, lui...
Ah, il est bon, lui.
C'est notre préféré.
Lui, ben, sans surprise, il qualifie ces menaces-là de chantage. Il dit que la France acceptera aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier. Il aurait aussi rejeté une proposition britannique de créer un centre de commandement conjoint et unique des forces françaises et britanniques parce qu'ils jugent contraire à la souveraineté française et aussi inutile parce que selon lui la coordination sur le terrain serait déjà bonne et efficace. Et aussi selon la France, en fait, c'est que l'augmentation des nombres de personnes migrantes qui gagnent les côtes anglaises serait pas due au manque de vigilance des autorités françaises, mais surtout au recours à des bateaux de plus grande capacité par les passeurs, parce que bon, les bateaux utilisés aujourd'hui peuvent en effet accueillir une soixantaine de personnes contre une quinzaine environ auparavant. Puis il paraîtrait aussi que les passeurs ont maintenant recours à ce que les médias appellent des bateaux d'appât, c'est-à-dire bateaux à pas, c'est-à-dire des bateaux qui servent comme à détourner l'attention, tu sais, à attirer les, puis à attirer l'attention des forces frontalières, puis à les saturer aussi.
C'est vrai ça là?
De façon apparemment.
Apparemment, ok.
De façon à laisser le champ libre aux bateaux chargés de migrants.
Ouais. C'est comme des tactiques dignes de l'armada espagnole.
C'est ça. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'on devrait assister à une sécurisation de la frontière encore plus intense si une telle chose est possible, parce que elle l'est déjà pas mal. On voit d'ailleurs aussi le long de la frontière terrestre, de la frontière entre guillemets là, terrestre, où là.
Tu veux dire vers Calais, là?
Ouais, c'est ça. Où est-ce que là des barrières ont été installées au début du mois le long de l'autoroute A16 près de Calais, c'est ça, pour empêcher les personnes migrantes de s'introduire sur l'autoroute qui mène à l'Angleterre via le tunnel sous la Manche, mm-hmm. puis de se cacher à l'arrière des camions. C'est que à la fin de l'année passée, quelques semaines avant l'entrée en vigueur du Brexit, il y a des dizaines de personnes migrantes qui ont profité des bouchons de circulation sur la 16, la A16, oui, pour tenter de pénétrer dans les remorques des camions en route vers le Royaume-Uni. Puis là, ben, les tensions avec les forces de l'ordre étaient évidemment récurrentes dans ce secteur-là. Il y a même un jeune Soudanais qui a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture là, près de l'entrée de l'Eurotunnel. Et donc, depuis 2015, ben c'est près de 65 kilomètres de panneaux rigides qui ont été installés à la fois là, aux abords du tunnel sous la Manche, mais aussi dans les ports puis dans les zones industrielles de villes situées dans le sud de Calais. Fait qu'écoute, c'est...
tout ça pour dire que les gens, finalement, prennent des bateaux ailleurs sur la côte pour essayer d'aller... directement oui, ben, bateau
c'est qu'en
vers,
fait,
vers
c'est que là, tout va devenir de plus en plus sécurisé. T'sais. Non seulement
non, mais les gens se déplacent, trouvent d'autres moyens. C'est ça un peu la conclusion. Là, finalement, là. Fait que Darmanin, il a beau inventer des histoires d'appât.
c'est un peu bizarre, hein, tout ça. Mais d'habitude, les moyens un peu fantaisistes, là, ça venait plus de l'Angleterre. Mais là, la France.
Je pense qu'il y a une compétition.
Je pense que oui, entre l'Angleterre et les passeurs.
C'est quoi, c'est les crocodiles bientôt. Ils vont acidifier l'eau, je sais pas trop.
La catapulte.
Bon, fort bien. Merci, Marie-Ève. Toujours très éclairant. Et on s'en va en musique, toujours aux Apatrides, avec la pièce, c'est Guided by Angels, le groupe Amol and the Sniffers, de l'album Comfort to Me, tout tout récent, sorti début septembre sur étiquette B2B. Amol and the Sniffers viennent de Melbourne, Australie. Ça sonne comme du Riot Girl, mais ce n'en est pas parce que seule la chanteuse est une femme. Il se compare à, attention, Minor Threat, AC/DC, Dolly Parton et Cardi B. Et Amol, ça veut dire nitrite d'amyl ou GHB. Donc voilà, on écoute ça aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Guided by Angels, c'est très bon, par le groupe Amol and the Sniffers. On retrouve Mathieu dans 2-3 minutes, mais tout d'abord, l'agenda. Vous parlez de Décoloniser l'histoire, une émission télé qui est déjà disponible en ligne dans le site de Télé-Québec. C'est animé par Vanessa Destiné, Maïté Labrique-Saganache et Youssef Choufan. Ça vise à présenter différents pans de l'histoire québécoise et canadienne du point de vue des personnes autochtones et racisées. Sinon, aussi, ben, sur un autre sujet, souligner le travail d'Amnesty International qui offre gratuitement en ligne une version simplifiée et téléchargeable en format PDF de la fameuse Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Avec cette version-là, pas besoin d'être un spécialiste en droit international pour bien comprendre. C'est destiné au grand public et c'est un outil très bien fait qu'on jugeait fort pertinent. Donc, on vous le recommande. Vous trouverez ça sur amnesty.ca. Maintenant, une manifestation organisée par Fridays for Future International, c'est demain. Manifestation mondiale pour la justice climatique, vendredi 24 septembre. Rendez-vous sur Parc à 13h devant le monument Georges-Étienne Cartier, là où ont lieu les tam-tam. C'est pour revendiquer une réelle justice sociale et climatique. Il y a la claque, Mathieu, je te sentais que tu voulais peut-être parler, qui faisait un appel à un contingent.
Il y a vraiment beaucoup de contingents demain. Il y a
Moi, claque. J'avais juste entendu parler celui de la claque.
Mais... Ben, la claque qui fait un contingent anticapitaliste. Il y a le SSF qui, aujourd'hui, a annoncé qu'elle avait un contingent. Okay. Et il y a le milieu communautaire sous l'égide de la Trovep qui fait un contingent. Donc, ça va être une grosse manif demain le 24, je pense.
Ouais, donc demain, rendez-vous sur Parc à l'angle, ben, on va dire Rachel, là, c'est ça, à 13h pour une grosse manif climat, anticapitalisme, etc.
Justice sociale, ouais.
Autre chose, il y a une collecte de fonds, qui est organisée, pour venir en aide à trois femmes. C'est sur Facebook que vous trouverez l'information. La page s'appelle Levée de fonds urgente pour trois mères monoparentales. Les trois femmes sont sans statut. Elles sont des organisatrices communautaires. Elles ont perdu leur travail en entretien ou comme soignantes pendant la pandémie et en raison de leur statut, elles n'ont jamais pu bénéficier de, ben, d'aucune forme d'aide gouvernementale. Donc, c'est extrêmement difficile pour elles-mêmes et leurs enfants pour le loyer, les médicaments, la nourriture. Je rappelle le nom de la page Facebook si vous voulez faire un don. Levée de fonds urgente pour trois mères monoparentales et on raconte aussi l'histoire de chacune de ces trois femmes-là qu'on peut lire. Voilà pour l'agenda. Donc, au retour d'un tout petit pont musical, on retrouve Mathieu qui va nous parler d'un procès assez important qui se déroule actuellement en Suède. Mathieu, on t'écoute.
Oui, ben c'est une nouvelle qui a pas fait les grandes manchettes, surtout ici au Québec-Canada. Mm-hmm. Mais un ancien responsable iranien accusé d'être impliqué dans des exécutions de masse d'opposants ordonnées à l'époque par l'Ayatollah Khomeini en 1988 et jugé en Suède depuis quelques semaines dans un procès qu'on qualifie de hors norme et très sensible.
Qui est citoyen suédois, on présume?
Non, absolument pas citoyen suédois. Ouais, je vais expliquer ça, c'est la compétence universelle. Premier procès, dans le fond, dans l'histoire, depuis 1979, depuis la révolution islamiste. C'est le premier procès contre les crimes du régime des Mollahs ou des Ayatollahs, donc c'est quand même un peu exceptionnel, puis ça se passe à travers une personne, mais c'est tout un régime qui est mise devant la justice. Amin Nouri, 60 ans, a été arrêté en novembre 2019 à l'aéroport de Stockholm à l'occasion d'une visite en Suède et se trouve depuis en détention provisoire. Je cite, l'accusé a intentionnellement ôté la vie à un très grand nombre de prisonniers sympathisants ou appartenant au Moudjahidine du peuple, entre autres, dans les années 1988. L'ancien responsable est aussi soupçonné d'avoir participé à l'exécution d'autres prisonniers sur la base de leur idéologie ou de leur croyance. Plusieurs plaignants liés à des groupes socialistes et communistes, entre autres, détenus en 88 dans la prison de Gohardash, où ses fils et l'accusé vont venir témoigner. Faut dire qu'en 88, suite à des troubles avec une guerre avec l'Irak et des révoltes internes, les milliers de prisonniers qui étaient emprisonnés devaient prêter allégeance au régime des Mollahs et renoncer à leurs idéologies ou convictions communistes ou autres, sous peine d'être exécutés, et c'est ce qui est arrivé pour beaucoup de gens. Donc, c'est assez impressionnant.
Donc, c'est un énorme procès, là, finalement. Ça implique du monde d'un peu partout, j'imagine.
Oui, ben c'est ça. Il y a un seul accusé, mais il y a plein de gens, des centaines et des milliers de personnes qui vont venir témoigner. Ça va durer 2 ans, jusqu'en avril 2022. C'est inédit, vraiment, comme procès. Et cet homme-là comparait notamment pour crimes de guerre et meurtre en vertu de la compétence universelle de la justice suédoise. Donc, pour des crimes se sont passés, non pas en Suède, dans un autre pays, avec des gens qui ne sont pas suédois non plus. Dans les années
Mathieu, tu peux-tu expliquer c'est quoi la compétence universelle?
Ben, j'ai pas la définition officielle, mais c'est le principe qui fait, on a ça au Canada aussi maintenant, puis il y a ça dans certains pays d'Europe, c'est que tu peux arrêter et accuser quelqu'un et juger quelqu'un et condamner quelqu'un pour des crimes qui ont été commis dans un autre pays, si des gens de ce pays-là ont fait plainte dans ton pays, dans ta juridiction.
Okay.
Ça se passe au Canada avec des Rwandais, entre autres, pour le
génocide. C'est particulièrement ça dans des cas de crimes contre l'humanité.
Génocide. Okay. Oui, pas pour un assassinat simple.
Non, c'est
là.
Ça.
Exactement.
Okay, parfait, merci.
Ben, de rien. juste pour vous expliquer un petit peu plus de détails, dans les années 80, M. Nourry occupait des fonctions d'assistant auprès de l'adjoint au procureur à la fameuse prison près de Carrage, près de Téhéran. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté évidemment à l'ouverture du procès, dont des ex-prisonniers politiques et des proches des gens qui ont été exécutés en 1988. Donc, c'est vraiment très gros en Europe, entre autres avec la diaspora iranienne. Et l'affaire est très sensible en Iran, parce que beaucoup de gens accusent des responsables aujourd'hui d'avoir joué un rôle dans ces crimes-là en 88, comme le président qui vient d'être élu, Raisi, et qu'Amnesty accuse d'avoir été un des membres d'une des commissions de la mort à l'origine de ces purges, qui ont fait officiellement de 4 500 à 5 000 personnes tuées à l'été 88, mais plusieurs parlent de 30 à 40 000. Et interrogé en 2018 et en 2020 sur ces exécutions, le président actuel, Raisi, nie avoir été impliqué, mais a rendu hommage à la fatwa ou l'ordre donné par l'ayatollah Khomeini pour procéder à cette épuration, donc en 1988. Donc, c'est assez énorme. Et puis, peut-être pour terminer sur quelque chose, vous allez trouver ça particulier.
On va voir s'il y a un lien entre les deux aussi.
Oui, il y a vraiment un lien. La semaine passée, le procès de deux Suédois accusés de trafic de drogue s'est ouvert à Téhéran. Hein? Quel hasard!
Et il y avait une réciprocité.
C'est ça, ça nous fait penser à d'autres situations. Ils ont été arrêtés en 2020, puis là, le procès a commencé la semaine passée. Donc, on parle que c'est pas une coïncidence. Et même un expert de l'Iran dit « Les Iraniens ont un portefeuille de prisonniers de différentes nationalités pour mettre la pression au moment où ils le souhaitent, quand il y a des situations qui l'exigent. »
Ah oui, fait qu'ils détiennent des gens comme ça, puis à un moment donné, ils sortent.
Ben, ils accusent pas, puis tout d'un coup, s'ils ont conflit avec un pays, s'il y a un procès qui commence. Mais je voulais juste vous dire, parce que c'est vraiment une grosse affaire en Iran, puis dans la diaspora iranienne, qui est beaucoup en Europe, entre autres, mais c'est vraiment, puis comme les trucs de compétences universelles, ça commence à être de plus en plus présent, donc c'est un autre test, là, finalement. Mais cet homme-là aurait tué des centaines de personnes sous les ordres, évidemment, de d'autres dirigeants plus importants que lui. Et à l'époque, il y a 60 ans, c'est passé il y a 35 ans, fait qu'il il y avait 25 ans à l'époque, cet exécuteur.
Mais il peut pas encore feindre la sénilité comme Pinochet ou comme ça.
Exactement, bon point, Simon.
Harvey Weinstein.
Et peut-être vous dire, en terminant, qu'il a été pris dans un guet-apens, c'est-à-dire que des opposants iraniens suédois l'ont fait venir, ont utilisé sa petite fille, ont demandé à sa petite fille de se servir à sa fille de le faire venir pour qu'il voit sa petite fille qui vient d'être née, puis il avait monté le dossier et là, il a été arrêté à son arrivée.
Un vrai film. Mais il n'était pas pris dans un bateau à pas sur la Manche, non.
Bon lien, Simon. Voilà.
Mais pour ce qui est de la portée en Iran, c'est probablement que la décision ne sera pas reconnue là-bas.
Non,
pour la diaspora, ça peut avoir un impact peut-être plus important.
Exactement. Plus d'autres pressions possibles aussi. Ouais.
Donc, écoutez, on vous passe notre petit indicatif de fin d'émission. C'est déjà la conclusion. Dans quelques secondes pour les apatrides anonymes. Et oui, les Apatrides Anonymes, édition du 23 septembre 2021, presque terminée. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Ça nous mène au jeudi 7 octobre, 18h30. J'en profite pour vous laisser nos coordonnées. Notre site web, apatridesanonymes.info. Notre courriel, vous pouvez toujours nous écrire, ça nous fait plaisir, apatridesanonymes@resist.ca. On a une page, Mathieu, plus jamais le dire.
FB. Hein?
FB avec beaucoup d'articles dont on, beaucoup de sujets dont on vous a parlé, il y a des articles en lien, beaucoup d'informations complémentaires. Évidemment, on est sur choc.ca. Toutes nos émissions sont en balado, en rattrapage. On va se laisser en musique avec les excellents et légèrement psychédéliques Besnard Lakes, le single Super Ego. C'est juste, moi je pensais que c'était juste un single pour l'instant. Mathieu me disait que c'est sur un album à paraître peut-être bientôt.
Sur le futur album, mais il y a un album qui est sorti en 2021, un album complet aussi au début de l'année.
Que d'ailleurs, vous les avez vus en spectacle hier. On peut prendre peut-être une minute ou deux pour en parler.
Ben oui.
Donc Mathieu, Marie-Ève, les deux, vous avez eu la chance d'assister à un spectacle en soi, c'est une chance, mais des Besnard Lakes.
Oui, moi, j'étais pas mal énervée d'assister à ce spectacle en vrai.
Dans le magnifique Rialto, en plus. Là.
Qui est une magnifique salle, effectivement. Et le son était parfait.
Ah oui.
Le son, les éclairages aussi. Puis c'est une salle qui a été rénovée il y a quelques années, donc c'est super agréable. Et c'est dans le cadre de Pop Montréal aussi, qui commençait hier soir, qui est dur toute la fin de semaine. Mais très bon spectacle d'une heure et demie. Psychédélique, t'as dit, Simon, mais aussi, on pourrait dire prog, on pourrait dire post-rock, on pourrait dire...
Stoner,
on a même shoegaze des fois.
Shoegaze, c'est vraiment un groupe avec leurs 6 albums, ils existent depuis 2003, qui ont vraiment... C'est des expérimentateurs, c'est 5 personnes vraiment tripantes et tripeuses. Et ils ont fait un très beau spectacle avec des harmonies de voix. Avec, c'était vraiment. Moi, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Puis c'est à voir dans les prochains mois s'ils reviennent à Montréal. Ben, c'est un groupe montréalais, là, mais
s'ils refont un show, eux-mêmes devaient être très contents de se présenter. Ça devait paraître.
Il n'avait pas l'air de s'emmerder, en tout cas. Il avait l'air d'avoir du gros fun.
Mais c'était le flegme anglophone quand même. Ils n'ont pas, déchiré leur chemise.
On est dans le Mainland.
Non, c'est ça. Ils n'ont pas parlé non plus entre les pièces ou quoi que ce soit.
Mais c'était une heure et demie de très bonne musique. Et puis, dans une salle pas trop pleine, hein? Ça laisse pas trop plein, les salles, ces temps-ci.
Pas trop pleine. Puis, quand même, ils ont été généreux sur le rappel, là, de 30, une grosse demi-heure.
Avec leur grand succès.
De rappel,
là.
Ouais.
Mais leurs tunes sont. Ils ont fait 2 tunes en une demi-heure, j'imagine.
Trois, quatre.
Ils ont des tunes de 3 minutes aussi. Et ils ont des tunes de 10 minutes.
Ça, ouais, c'est comme la prochaine d'ailleurs qu'on va écouter.
Qui est un format presque radiophonique. La tune d'ailleurs qu'on va écouter, c'est Super Ego. C'est ça, des Best Nord Lakes. Marie-Ève, merci beaucoup. On se voit dans 2 semaines.
Bien sûr.
Mathieu, merci à toi aussi. Excellent contenu comme toujours. On se flatte, là, mais.
Excellente animation, Simon.
Merci.
Si,
c'est ça qu'il fallait dire.
Puis moi.
Ben oui, Marie-Ève, t'étais très bonne toi aussi.
Merci.
Fait que les Apatrides vous reviennent le 7 octobre à 18h30 sur choc.ca. On se laisse avec The Best Nord Lakes, Super Ego. Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée tout le monde.